dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri? » L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri.
Bonjour à tous. C'est sûr que quand on est devant avec la lumière, on ne vous voit pas forcément, mais vous, vous me voyez. C'est un privilège pour moi encore d'être avec vous ce matin. Et ma prière, c'est que le Seigneur puisse se servir de moi ce matin pour nous parler, parce que le Seigneur, à chaque instant, a quelque chose pour chacun d'entre nous. Prions le Seigneur. Père Céleste, ce matin, nous sommes rassemblés comme un peuple pour te lever, t'honorer, t'adorer. Nous sommes rassemblés comme une famille pour reconnaître ta sainteté au milieu de nous, ta royauté, ta majesté. Ce matin, Éternel, puisses-tu te servir du faible instrument que je suis pour parler à ton peuple. Oui, Éternel, c'est ton peuple, c'est toi que ton peuple est venu t'écouter et non un homme. C'est ton esprit que ton peuple veut entendre et non la voix d'une personne. Seigneur, parle-nous ce matin d'esprit à esprit, de cœur à cœur, afin que nos cœurs et nos vies soient transformés à la gloire de Dieu notre Seigneur et Sauveur. Béni sois-tu, Éternel, ce matin, non pas à moi. Oui, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen. Ce matin, merci encore pour les responsables de l'Église pour cette invitation. Et j'ai pensé que, vu que j'ai eu déjà le privilège de nous entretenir sur le corps parfait de Dieu que l'Église constituait, j'ai pensé qu'il était important ce matin de rester dans la même thématique et de pouvoir apporter comme une suite logique au message que j'ai partagé avec vous il y a quelques semaines. Ce matin, donc, le message est une suite logique du message que je vous ai apporté sur la notion de la famille de Dieu, l'Église en tant que famille de Dieu. Et si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, nous avons dit que la famille que nous constituons est une famille unie. Mais c'est une famille aussi qui est constituée de différents membres. Chaque membre, malheureusement, avec ses imperfections, chaque membre avec ses défauts. Alors, comment Dieu peut-il faire quelque chose de parfait à partir des choses qui sont imparfaites, puisque nous sommes imparfaits? Ce matin, c'est la question à laquelle nous aimerions tenter de répondre. Pour que Dieu puisse se servir des choses aussi imparfaites que nous, pour faire et bâtir un corps parfait, probablement il faut passer entre les mains expertes du médecin-chef de la clinique de Dieu pour être guéri, pour être travaillé à la manière de Dieu pour que nous devenions les hommes et les femmes que Dieu désire. Donc bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, acceptez le diagnostic de Dieu et reconnaître notre état de maladie nous ouvre certainement la porte pour comprendre comment Dieu opère ce miracle dans nos vies. Donc, je vous ai présenté, comme je le disais tantôt, il y a quelques semaines, l'Église comme une famille unie, avec ses membres, chaque membre ayant ses différences, ses qualités, mais aussi ses défauts. Mais chaque membre est doté d'un certain nombre de talents, de dons donnés par Dieu pour l'édification du corps du Christ. Mais ce matin, j'aimerais vous présenter toute une autre réalité de l'Église de Dieu. L'Église comme étant un endroit, l'endroit par excellence, choisi par Dieu, où Jésus fait ou veut faire la plus grande opération jamais réalisée sur la terre, faire de l'être humain, déchu à cause du péché, un être avec un être complètement, avec un cœur renouvelé, un être nouveau qui se sent bien dans son corps, qui se sent bien dans son âme, qui se sent bien dans son esprit. L'Église bien-aimée dans le Seigneur est donc la clinique de Dieu où Dieu a entrepris cette œuvre gigantesque qui verra son apothéose lors de l'enlèvement de l'Église quand Christ fera apparaître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, comme le déclare Éphésiens 5, le verset 27. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais vous présenter deux réalités de l'Église en tant que clinique de Dieu. La première réalité, nous parlerons de la clinique et de ses malades. Qui parle d'une clinique parle aussi des malades. La deuxième réalité, je vais vous inviter à faire une visite guidée de la clinique de Dieu avec moi ce matin. Retournons dans le texte que Oscar nous a lu ce matin. Dans le verset 2, gardez le texte sous la main pendant le message. Dans le verset 2 du chapitre 5 de Jean, la parole de Dieu déclare « Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. » La piscine de Bethesda, bien-aimée, est le symbole de l'Église, de la maison de Dieu. Ce qui est important dans le texte que nous venons de lire, ce n'est pas l'architecture de la maison de Dieu, ni moins encore la décoration de cette maison. Mais ce qui est important dans le texte que nous venons de lire, c'est le sens même de l'endroit que représente cette maison. Et quand nous regardons dans la parole de Dieu, Bethesda signifie littéralement « maison de miséricorde ». Maison de miséricorde. Bien-aimés, l'Église de Jésus-Christ doit être la maison de miséricorde. Car Dieu, notre Père, est un Dieu de miséricorde. C'est ce que la Bible nous enseigne, que Dieu est un Dieu de miséricorde. Mais voyons, c'est quoi la miséricorde? Regardons un peu la définition que le Larousse donne. Le Larousse définit la miséricorde comme la pitié qui pousse à pardonner à un coupable ou à un vaincu. Le pardon accordé par pure grâce. Si donc l'Église est la maison de miséricorde, alors l'Église doit être sans aucun doute l'endroit où le coupable se sent pardonné. L'Église doit être l'endroit où celui qui est vaincu par toutes sortes de choses dans la vie, se sent relevé de sa défaite. Voilà ce que l'Église doit être, et ceci toujours par pure grâce, sans aucun mérite. C'est ce que la Bible nous enseigne. La maison de Dieu, l'Église, est donc un endroit réservé seulement aux coupables et aux vaincus, qui sont blessés et dépouillés de tout. Ils y viennent pour recevoir le pardon. Ils y viennent pour être relevés de leur défaite. Bien-aimés, il est important, quand vous allez dans un endroit, que vous puissiez être sûr que c'est l'endroit où vous voulez vraiment aller. Imaginez que vous vous rendiez dans un garage d'auto avec votre ordinateur portable brisé. Malgré la bonne volonté du garagiste, il ne peut pas grand-chose pour vous, sinon de vous envoyer vers le bon endroit. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous devez faire attention quand vous allez dans un endroit de bien lire l'écriteau qui est placé à l'entrée de cet endroit pour être sûr que vous êtes à l'endroit où vous voulez vraiment être. Dans l'Antiquité grecque, il y avait un endroit qui s'appelle l'Acropole à Athènes. Cet endroit est un endroit de rassemblement des savants, des grands philosophes de ce temps. Et un de leurs maîtres, Platon, a fait inscrire à l'entrée du bâtiment ces paroles « Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Parce que pour Platon, il était important que quiconque entrait là puisse être convaincu par lui-même qu'il avait les qualités d'être au rang de ceux qui pouvaient se tenir dans cet endroit pour partager les pensées philosophiques qui étaient en discussion alors. Bien-aimé, s'il en est ainsi, il me semble que toute église qui se réclame de Jésus-Christ, devrait mettre à l'entrée de son bâtiment ces paroles qui décrivent un peu la nature de l'endroit où nous nous trouvons ce matin, la maison de la miséricorde. Le lieu par excellence où le coupable vient pour être pardonné, où celui qui est vaincu vient pour être relevé de sa défaite. Toutes les églises devaient pouvoir mettre à l'entrée de leur bâtiment que nul n'entre ici s'il n'est malade. Bien-aimé, Jésus a déclaré qu'il n'est pas venu pour guérir ceux qui se croyaient en bonne santé ou que ceux qui pensent être en bonne santé. Jésus est venu pour guérir ceux qui sont malades. Si vous pensez être malade, bien-aimé, ce matin, si vous croyez que vous êtes malade et que vous souffrez d'une maladie spirituelle, bien-aimé, vous êtes au bon endroit. Vous avez choisi le meilleur endroit pour répondre à votre besoin. Entrons donc ensemble dans la clinique de Dieu à Bethesda, et voyons quels sont les malades qui sont dans cette clinique. Il y a dans cette clinique deux catégories de malades. Regardons les versets 3 à 6. Il est écrit « Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle a été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Et là, se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» En effet, bien-aimés, on ne s'est pas trompé d'endroit. On voit bien que nous sommes dans une clinique de malades. Quand on voit le nombre de malades et de maladies qui étaient à la piscine de Bethesda, la salle d'urgence, la salle d'attente était bondée de monde, remplie de monde, telle une salle d'urgence dans un hôpital au Québec. Le temps d'attente moyen pouvait atteindre 38 ans, record Guinness homologué. La règle du premier arrivé, premier servi ne s'applique pas malheureusement à cette clinique. La règle était pourtant simple. La règle était tout simplement le premier à entrer dans la salle de consultation, quand la porte du médecin s'ouvrait, était servi. Il faut donc jouer du coude et user de toutes les stratégies pour être placé aux premières loges et être sûr de pouvoir sauter littéralement dans la salle de consultation pour voir le médecin quand la porte du médecin s'ouvrait. Et à ce jeu, bien-aimé, les plus forts et les plus rusés étaient les meilleurs. Jésus était donc en visite dans cet endroit, dans cette clinique à ciel ouvert, à la piscine de Bethesda. Jésus était en visite. Et subitement, la parole de Dieu nous dit que Jésus s'arrête devant un des recordman du temps d'attente et lui pose une question. Une question qui aurait pu lui faire sortir de ses gonds et rougir de colère. Veux-tu être guéri? En y relisant la question, on peut se demander si elle n'est pas absurde et inappropriée de la part du Seigneur. Mais bien aimé, il y a une vérité. Et cette vérité, elle peut nous sembler dure. Dans chaque clinique où il y a les malades, il y a toujours deux catégories de malades. Il y a les malades qui ne veulent pas être guéris. C'est un peu bizarre. Parce qu'on se dit, ils sont malades et ils sont à la clinique. Ne veulent-ils pas être guéris? C'est parce qu'il y a des malades qui viennent à la clinique pour voir le médecin, mais qui connaissent déjà leur maladie. Mais mieux encore, ils connaissent déjà la médication à appliquer. En fait, ils ne viennent pas pour que le médecin leur dise quoi faire. Ils viennent suggérer au médecin le médicament à leur appliquer pour leur maladie. Ils connaissent déjà la recette, ils connaissent déjà le remède. Ils ont déjà leur propre idée. Malheureusement, de même dans l'Église de Dieu, il y a des gens qui sont prêts à sacrifier dimanche après dimanche, à venir à l'Église, mais qui malheureusement ne sont pas encore prêts à suivre le remède que le médecin en chef de la clinique de Dieu peut leur conseiller. Bien-aimés, ces malades, pourquoi ont-ils un tel comportement? Peut-être parce qu'ils peuvent compter sur leurs parents. Mais laissez-moi vous dire ce matin, quel que soit le statut social de votre famille, quels que soient les moyens financiers dont votre famille dispose, ces moyens ne pourront rien pour vous dans la clinique de Dieu. Peut-être que ces malades comptent sur leurs amis, quels que soient les conseils des amis les plus avisés que vous pouvez avoir dans ce monde. Ces conseils ne vous seront d'aucune utilité pour la maladie dont vous souffrez qui vous amène dans la clinique de Dieu. Peut-être ces personnes comptent sur leur réseau de relations. Même le plus puissant réseau au monde ne vous sera d'aucune aide dans la clinique de Dieu. Peut-être que ces gens-là comptent sur leurs moyens matériels et spirituels. Peut-être ont-ils consulté leur horoscope. Peut-être ont-ils lu leur avenir de quelque manière que ce soit. Mais bien aimé, quel que soit le moyen spirituel dont vous disposez, ce moyen ne pourra rien pour vous, pour la maladie dont vous souffrez et qui vous amène dans la clinique de Dieu. Il y a une deuxième catégorie de malades. Les versets 7 à 9 disent « L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Et quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt, l'homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. » La deuxième catégorie de malades, c'est ceux qui reconnaissent leur état de malade. Mais mieux encore, ils reconnaissent leur incapacité de se guérir par eux-mêmes. Comme notre recordman à la piscine de Bethesda, dans l'Église de Dieu, il y a des gens qui reconnaissent leur maladie. Mais mieux encore, ils reconnaissent leur incapacité de se guérir de leur maladie. Ils sont conscients. Ce malade est conscient. Il est conscient qu'il ne peut pas compter sur sa propre force. En réalité, il a déjà essayé plusieurs remèdes, mais aucun de ces remèdes n'a fonctionné. Il sait qu'il ne peut compter ni sur ses parents, ni sur ses amis, ni sur ses moyens qui l'ont tous abandonné, car il est seul face à la situation. Ce malade connaît par cœur la prière du pécheur du temple. Qui pouvait se taper la poitrine et dire « Seigneur, aie pitié de moi ». La Bible dit que cet homme n'osait même pas lever les regards vers le ciel tant il était conscient de son état de péché. « Seigneur, aie pitié de moi ». Bien-aimés, voilà la deuxième catégorie de malades. C'est pourquoi, bien-aimés, nous pouvons déclarer sans aucun doute dans notre esprit que Jésus vient au secours de l'enfant de Dieu, du chrétien qui est conscient de son état de péché. Maintenant que nous avons fait connaissance un peu avec la clinique de Dieu, cette maison de miséricorde, et un peu les catégories de malades qu'il y avait dans cette maison, je vous invite à faire avec moi une visite guidée de la clinique de Dieu. Je vous propose de vous accompagner dans cette clinique. Et j'ai pensé qu'il serait bien de vous présenter 5 départements de la clinique de Dieu, puisqu'il y avait 5 portiques à Bethesda. Voici les 5 départements dont nous parlerons ce matin. Nous parlerons de la maternité. Ensuite, nous irons à la pédiatrie. Nous poursuivrons notre visite à la gynécologie. Puis on arrivera à la cardiologie pour finir dans le département de trauma et grand brûlé. Je vous invite à être attentif lors de la visite, histoire simplement d'identifier dans quel département vous deviez vous trouver en ce moment, pour que le grand médecin de la clinique de Dieu puisse appliquer le remède approprié qui correspond à votre état de santé. Sans plus tarder, bien-aimés, que dis-je, sans plus tarder, malade de la clinique de Dieu, suivez-moi un peu dans cette visite guidée de la clinique de Dieu. Allons d'abord au premier département, la pédiatrie. Ah, il ne faut pas sauter. Juste pour être sûr que vous me suivez. Bon. Tout le monde est prêt. On commence la visite. Le premier département, la maternité. Tournez avec moi votre Bible dans Galates 4, verset 19. Là, il est écrit, dans la version second 21. Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Bien-aimés, le miracle de la vie prend naissance à la maternité. Et le miracle de la nouvelle naissance aussi prend naissance à la maternité de Dieu. C'est une opération douloureuse qui nécessite une effusion de sang. Et gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus-Christ a versé son sang pour nous enfanter. Bien-aimés, comme les différentes parties du fœtus se forment tout au long, pendant les longs mois de la gestation, de même la nature de Christ se forme pendant de longs mois de notre marche et de notre séjour à la maternité de Dieu. Mais contrairement à une maternité humaine, La maternité de Dieu dure aussi longtemps que nous vivons sur cette terre. Parce que le caractère de Christ continue par se former jour après jour, instant après instant, dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Chaque trait de caractère de Christ doit être moulé pour finir par se confondre à notre caractère, au point que sur un trait de caractère donné, à un certain moment, on n'est plus capable de distinguer ce qui est de Christ et ce qui est de nous. Bien-aimés, quand nous arrivons à ce stade-là, alors nous quittons progressivement notre double personnalité pour tendre légèrement et chaque jour un peu plus vers la personnalité unique de Jésus-Christ. Et nous atteindrons cette personnalité unique parfaitement le jour de son avènement ou quand il lui plaira de nous rappeler à lui pour entrer éternellement dans sa présence. Ne nous tardons pas à la maternité. Faisons un tour à la pédiatrie. Dans Hébreux 5, au verset 12, la parole de Dieu déclare « Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les différents éléments de base de la révélation de Dieu. » Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Le manque de croissance, c'est un des paramètres le plus surveillé par les pédiatres, parce que ce manque de croissance cache en réalité plusieurs autres maladies. Quand vous êtes un parent et que vous amenez votre enfant chez un pédiatre, il prend différentes mesures pour s'assurer que le développement, la croissance de votre enfant est normale. Et si ce n'est pas le cas, il va y remédier. De la même manière, dans le département de la pédiatrie de Dieu, Dieu est préoccupé par toutes sortes de carences qui nuisent à la bonne croissance de ces enfants que nous sommes. Le pédiatre en chef de la clinique de Dieu, Jésus-Christ lui-même, veut que nous puissions croître à tous égards et que nous prospérions dans notre marche et dans notre communion avec lui. Voilà pourquoi Jésus-Christ ne cesse à aucun moment de nous nourrir des mets les plus succulents. Il ne cesse de nous apporter les vitamines de croissance de meilleure qualité. Jésus-Christ nous donne des vitamines et des oligo-éléments. Des oméga-3, par exemple, tirés de la parole de Dieu. Bien-aimés, Dieu, au travers de la personne de Jésus-Christ, nous donne des protéines et des fibres que nous allons puiser dans les enseignements que nous recevons dans nos classes d'école de dimanche, dans nos petits groupes, parce que Dieu désire notre croissance. Dieu veut que nous mangions bio. Dieu veut que nous évitions tous les OGM, tous les organismes génétiquement modifiés des sectes et gourous spirituels de ce monde. Parce que Dieu désire notre croissance. Dieu veut que nous surveillions notre poids pour ne pas tomber dans l'obésité de l'orgueil, étant trop remplis de nous-mêmes. Dieu nous encourage à l'exercice de la parole de Dieu au travers de la prédication. Bien-aimés, Dieu désire notre croissance à tous égards. Et c'est ce que le médecin-chef de la clinique de Dieu, le pédiatre en chef, s'assure de faire jour après jour dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Mais allons au troisième département, à la gynécologie. La gynécologie, un des troubles les plus récurrent dans une gynécologie, c'est la stérilité et les troubles associés, qui sont les principales causes ou les principales raisons de notre visite chez un gynécologue. Le département de la gynécologie traite de tous les troubles de stérilité spirituelle dans la clinique de Dieu. Jésus a insisté à plusieurs reprises sur le fait que nous ne devons pas nous contenter de grandir, mais nous devons porter du fruit. Parce que Dieu veut que nous portions du fruit. Mais quels sont les fruits que nous devions porter en tant qu'enfants de Dieu? La Bible mentionne trois différents types de fruits que nous devons porter. Et j'aimerais que vous puissiez venir avec moi pour voir les différents fruits que Dieu veut que nous portions dans notre vie. Le premier fruit, c'est le fruit de la repentance. La Bible dit dans Matthieu 3, versets 8 à 10, « Produisez donc le fruit qui confirme votre changement d'attitude et ne vous avisez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. » Notre vie, c'est notre vie, notre attitude et notre comportement doivent, selon le passage que nous venons de lire, témoigner du changement qui s'est produit réellement dans notre vie et qui a commencé à la maternité de Dieu quand nous avons connu cette nouvelle naissance. Le deuxième type de fruit, c'est le fruit de l'esprit. Et ce passage, vous le connaissez bien dans Galates, au chapitre 5, les versets 16 et 22. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Nous ne pouvons pas nous contenter seulement de témoigner que nous sommes repentis. Mais nous devons non seulement arrêter de faire les mauvais coups, ce qui veut dire repentance, mais nous devons aussi apprendre à faire de bons coups. Nous ne devons pas nous contenter seulement d'arrêter de sacrer. Nous devons aussi bénir à la place de sacrer. Nous ne pouvons pas nous contenter seulement d'arrêter de colporter des rumeurs pour dénigrer nos frères et sœurs ou nos voisins. Mais nous devons leur apporter des paroles d'encouragement. Voilà le fruit de l'esprit. Mais il y a un troisième fruit, l'œuvre de la foi. Jacques 2, le verset 20 dit, « Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est une foi morte ?» Oui, c'est bien d'avoir le fruit de l'esprit, mais c'est encore mieux de marcher par la foi. Désormais, les circonstances et les événements en eux-mêmes n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Nous osons faire confiance à Dieu parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a déclaré, il accomplit. Dieu a les moyens de sa politique. Bien-aimé, cela me rappelle une histoire. L'histoire d'une jeune fille de 5 ans, dans un village africain, en pleine période de sécheresse. Depuis 3 ans, il n'y a pas une seule goutte de pluie dans ce village. Alors l'église du coin a décidé de prier, parce qu'ils croient que leur Dieu est grand et puissant pour faire venir la pluie. Est-ce que c'est une bonne chose, bien-aimé? Alors ils se sont mis à prier. Mais il semble que la réponse tarde à venir. Alors ils ont dit, on va augmenter la cadence de la prière, on va jeûner et prier. Alors, pour ne pas être gênés par les bruits de la ville, ils ont dit, on va se retirer dans un endroit où on va être seul, on va prier, on va jeûner, pour que Dieu fasse venir la pluie. Et le jour arriva. Et une famille chrétienne, convaincue de ce que Dieu est prêt à exaucer leur prière, s'apprête à partir au lieu de rassemblement du jeûne et prière, avec leur petite fillette de 5 ans. Tout le monde se prépare. Le papa, comme toujours, un peu stressé, crie sur tout le monde, faites vite, on va être en retard. Finalement, tout le monde sort de la maison. Mais pour une raison qu'on ignore, la jeune fille court de nouveau dans la chambre. Alors, le papa est un peu énervé à cause du retard qu'il prenait. Mais qu'est-ce que tu vas faire encore dans la maison? Alors, la jeune fille se retourne candidement vers ses parents et dit, « J'ai oublié de prendre mon parapluie. » Et tout le monde éclata de rire. Parce que comment veux-tu prendre un parapluie? Ça fait pratiquement un an qu'il n'y a pas une seule goutte de pluie. Donc ton parapluie ne te servira pas à grand-chose. On ferait mieux de se précipiter pour aller prier et jeûner. Alors la fille, un peu étonnée, s'est demandée et demanda à ses parents, « N'est-ce pas que nous allons prier? Est-ce que le pasteur n'a pas dit que si nous prions, Dieu fera venir la pluie? Moi, je n'ai pas l'intention de revenir à la maison mouillée. » Bien-aimée, cette fille venait de faire la démonstration de sa foi. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, mais c'est surtout la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voyait pas la pluie, on ne voyait pas de nuages, mais cet enfant voyait et voyait les nuages parce que Dieu l'avait dit. Ou parce que tout simplement son pasteur l'avait dit. Et il croyait que son pasteur avait dit la parole de Dieu. C'est ça, avoir la foi. Ne nous attardons pas à ce département. Allons à la cardiologie. La Bible dit, « Je vous donnerai, Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Bien-aimé, c'est une opération de transplantation de cœur. Cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Les premières transplantations cardiaques ont été des événements planétaires, malgré que les greffés n'ont survécu que quelques jours. Bien-aimé, Dieu, depuis toujours, veut faire cette opération de transplantation de cœur. Pas seulement pour quelques jours, pas seulement pour quelques semaines ou quelques mois, mais pour l'éternité. Dieu veut ôter notre cœur de pierre et le remplacer par un cœur de chair. Voilà ce que Dieu veut faire dans la vie de chacun d'entre nous. Cette opération, elle est longue parce que ce n'est pas seulement notre cœur qui est atteint, mais toutes les choses qui sont reliées à notre cœur sont rongées par la gangrène qui infecte notre cœur. Et c'est pourquoi Dieu veut ôter ce cœur de pierre et y mettre un cœur de chair. Voilà pourquoi, lors de sa toute première déclaration publique, Jésus-Christ, dans Luc 4, le verset 18, a dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a accordé par onction, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, pour ne pas prendre toute la matinée, parce que j'en suis capable. En Afrique, on sait quand la prédication commence, jamais quand elle finit. Donc, je fais un effort pour... Le dernier département que nous visiterons ce matin, c'est le département de trauma et grand brûlé. Dans 2 Timothée, au chapitre 3, versets 1 à 5, il est écrit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. » Dans la clinique de Dieu bien-aimé, il y a un département qui ne désemplit jamais. C'est le département de trauma et grand brûlé. À cause de cette déclaration que nous venons de lire, on voit bien que dans ce département, il y a des traumatologies graves, malheureusement présentes dans l'Église de Dieu, la maison de la miséricorde. Il y a des fractures entre frères et sœurs. Dans ce département, il y a des fractures dans le couple. Il y a des fractures dans la famille, entre parents et enfants. Dans ce département, il y a des déchirures internes, des luttes de pouvoir. Mais à côté de ces traumatologies graves, il y a des malades dont on entend très peu parler, parce qu'ils se retrouvent souvent mélangés avec les traumatologies graves. Ces malades discrets, mais aussi atteints que les autres, doivent être pris au sérieux. Dans la clinique de Dieu, il y a des brûlures graves. Il y a des gens qui sont brûlés pour régler les conflits des autres. D'autres sont brûlés pour suppléer à la non-productivité des autres personnes. Au nombre de ces brûlés, on retrouve des pasteurs, on retrouve des anciens, on retrouve des responsables de ministère, on retrouve, bref, les chrétiens engagés qui veulent servir l'Église. Bien-aimés, notre visite tire à sa fin. Il y a d'autres départements que nous aurions pu inclure dans notre agenda de visite ce matin. Mais quelle que soit votre maladie, quel que soit le mal qui vous ronge, sachez une chose. Le médecin en chef de la clinique de Dieu saura trouver le département dont vous avez besoin. Le médecin en chef, Jésus-Christ, vous donnera libre accès au département dont vous avez besoin, si vous êtes conscient du mal qui vous ronge. Voilà pourquoi je peux continuer par affirmer ce matin que Jésus vient au secours du chrétien qui est conscient de son état de péché. Avant de terminer, j'aimerais nous rappeler les trois principales vérités de ce matin. Premièrement, l'Église est la maison de miséricorde. La clinique de Dieu, ceux qui se reconnaissent malades, sont les bienvenus. Si vous êtes ici et que vous ne vous reconnaissez pas malade, si vous ne sentez pas que vous avez besoin du grand médecin de la clinique de Dieu, bien-aimés, vous vous êtes trompés tout simplement d'endroit. Ici ne viennent que les malades. La deuxième vérité, c'est qu'on n'y vient pas pour rester malade, mais on vient pour être guéri. Et pour y parvenir, il faut reconnaître son incapacité de se guérir nous-mêmes. Quel malade êtes-vous? La troisième vérité ce matin, c'est que de la maternité à la gériatrie, le grand médecin, le médecin en chef de la clinique de Dieu, pourvoira à chacun de vos besoins, vous apportera le remède dont vous avez besoin. J'aimerais finir en vous racontant cette histoire, une histoire vraie. Il y a de nombreuses années, un homme du nom de Bill Broadhurst a subi un anévrisme au cerveau, le laissant partiellement paralysé du côté gauche. Avant son attaque cérébrale, il aimait courir. Aussi, quand un de ses héros, Bill Rogers, l'un des plus célèbres marathoniens qu'on voit au monde, décide de participer à la course de 10 km à Omaha, au Nebraska, Broadhurst décide de participer aussi au concours. Le jour de la course, certains des participants ont terminé en 30 minutes. Même les joggeurs de dimanche ont terminé en 60 minutes. Mais il a fallu à Bill Broadhurst beaucoup plus longtemps. Comme il a couru, son côté gauche est devenu si engourdi qu'il voulait abandonner. Il faisait un pas avec le pied droit puis faisait glisser son pied gauche. Après 2 heures, les voitures d'accompagnement s'étaient garées. Les spectateurs sont tous partis. Et les inspecteurs de la course ont dû se retirer sur le côté pour attendre. Après 2 heures et 20 minutes, il a déclaré que le degré de douleur était si horrible qu'il ne voulait plus continuer. Enfin, il a vu la ligne d'arrivée. Son cœur se serra, car le monde, tout le monde était parti. Il pensait, quelle est l'utilité? Mais il a décidé de finir de toute façon. Et comme il finissait, il vit arriver au coin de la rue Bill Rogers, le marathonien de renommée mondiale qui a remporté la course, avec un grand groupe de personnes avec lui. Ils attendaient pour lui. Rogers a ouvert ses bras et pris Brothers dans ses bras sur la ligne d'arrivée. Puis il prit la médaille d'or de son cou et l'a mis autour du cou du dernier coureur à franchir la ligne d'arrivée. Rogers a déclaré, « Bill Brothers, vous êtes le vrai gagnant. Prenez l'or. Bien-aimé, dans notre vie, dans votre vie, vous avez senti que votre cœur brisé était loin de guérir. En fait, il y a des moments où vous avez même décidé d'arrêter toute tentative. Vous vous êtes convaincu que cela ne vaut plus la peine. Que votre chagrin était trop grand, que votre douleur était trop profonde, qu'il semblait avoir personne là pour vous. Il semblait que personne ne se souciait. Pourquoi continuer à essayer? Mais bien aimé, ce matin, la vérité, c'est qu'il y a toujours quelqu'un. Son nom, c'est Jésus. Il est proche du cœur brisé. Si vous acceptez tout simplement ce matin qu'il prenne possession de votre cœur, qu'il prenne la direction de votre vie, qu'il prenne le contrôle littéralement de votre cœur, alors votre cœur commencera par guérir de ses blessures. Prions le Seigneur. Père céleste, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom parce qu'un jour il t'a plu de quitter ta royauté dans le ciel et venir sur la terre à cause de nos péchés. Et par ta mort sur la croix, tu nous as donné la vie. Et aujourd'hui, au travers de cette histoire, de cet homme qui, pendant 38 ans, attendait à la piscine de Bethesda, tu veux nous interpeller et nous dire que tu es présent dans nos vies, que tu désires nous visiter, tu désires faire un travail en profondeur dans nos vies, tu désires venir former ton caractère en nous, tu désires venir nous nourrir de ta parole afin que nous croissions à tous égards. Tu désires venir nous faire porter du fruit et du fruit en abondance. Tu désires venir guérir nos cœurs, brisés littéralement. Tu désires venir soigner nos traumatologies de toute nature. Tu désires soigner nos traumatologies, nos brûlures les plus graves de notre vie. Seigneur, nous voulons te faire confiance. Nous voulons croire que tu as le contrôle de nos vies. Béni sois-tu de ce que tu feras dans la vie de chaque frère, de chaque sœur ici présent. En Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.